Bonjour à tous et à toutes, je suis avec Monsieur Sarameya, notre historien géographe. Bonjour.
Bonjour, et on va regarder quelque chose que tout le monde connaît, une plante ô combien commune et que l'on voit très bien, le pissenlit. Voilà, donc fin mars sur les pentes à l'Adret, c'est déjà fleuri, il y a ces magnifiques fleurs que les poètes comparent à des petits soleils. Ensuite, début juillet, en altitude, beaucoup sur les pistes, mais aussi dans les alpages. C'est encore fleuri, vers 2000, 2200 mètres. J'en ai ramassé ce matin vers 2300 mètres pour agrémenter ma salade. Et puis ensuite, évidemment, c'est la transformation en graines, petites aigrettes qui vont partir sur les ailes de la brise.
Est-il comestible le pissenlit? Oui, on mange les feuilles, mais...
Oh, certainement, depuis la préhistoire, on sait que c'est une plante entièrement comestible. Les boutons floraux, les feuilles et les racines. Voilà, c'est. Et j'ai lu que depuis quelques années, des chefs étoilés, mais c'est en Île-de-France, proposaient des plats au pissenlit particulièrement goûteux et coûteux. Voilà, donc ça revient dans la gastronomie. Je dis ça revient parce que au XVIIIe siècle, c'était cultivé surtout dans le bassin parisien et c'était vendu sur les marchés, bien sûr au printemps quand c'est assez tendre. Voilà, donc oui.
A-t-il des vertus médicinales?
Alors, il semble bien que depuis un bon millénaire, sinon plus, dans tout le continent eurasiatique, puisque les Chinois s'en servent, la péninsule indienne aussi, on savait que les fleurs avaient des vertus pour le foie et pour la digestion. Le nom populaire, pissenlit, puisque le nom latin c'est Taraxacum, le nom populaire, il est assez tardif. C'est 17e ou 18e siècle où on a insisté sur l'aspect dépuratif et diurétique. Donc là, c'est peu poétique, mais c'est très concret. Mais on a fait des recherches et la plante entière, puisque les racines plongent jusqu'à au moins 50 cm, la plante entière a beaucoup d'oligoéléments très intéressants pour les équilibres du corps humain, pas mal de vitamines également quand ce n'est pas cuit. Et oui, c'est une plante. Alors je sais bien qu'une formule populaire depuis au moins 2 siècles dit ne vous pressez pas de manger les pissenlits par la racine, ce qui veut dire mourir. Hein. Mais non, c'est une plante à la fois très fréquente et très présente sur tout le continent, même à plus de 2000 mètres, parce que elle aime bien trouver un peu d'azote et les déjections des troupeaux l'été précédente enrichissent un peu le sol superficiel. Et puis, c'est une plante qui aime bien coloniser les sols peu occupés. Et donc, les pistes de ski sur lesquelles il n'y a pas d'autre végétation, sinon une végétation à portée de trèfle ou de certaines herbes, les pistes de ski sont très facilement colonisées par les pissenlits. C'est pour ça qu'il y en a plus sur les pistes que sous les mélèzes ou dans les autres herbages.
Le soleil aussi, ça joue, non? Les pistes sont en général
Oui,
ensoleillées.
ben ça, elle aime bien l'éclairage et la lumière naturelle, bien sûr, c'est indispensable pour la croissance, la floraison et les graines, oui, bien sûr.
Ces graines, justement, sont un symbole.
Ah oui, on disait dans les campagnes autrefois que. Alors, le terme scientifique, ce sont les akènes, hein, ces petites aigrettes qui s'envolent à partir du mois d'août et en septembre, et qui peuvent parcourir vraiment des kilomètres parce que c'est très léger. On disait aux enfants, soufflez sur les graines et faites un vœu. Voilà, et puis fin 19e, une célèbre entreprise de culture et de littérature française en a fait son emblème, hein, sur les Larousse, pour ne pas la citer, selon la formule consacrée, c'est « je sème à tout vent », sous-entendu « je sème la connaissance à longue distance et dès le plus jeune âge, tout comme des enfants qui soufflent sur ces jolies aigrettes grises qui parcourent le monde avant de se semer ». Alors j'ai trouvé d'un géographe bien oublié, mais grand géographe de la fin du 19e, Élisée Reclus, qui avait fait la première grande encyclopédie géographique du monde. C'était dans les années 1890, et qui dit ceci: « Cette fleur qui est un soleil devient une voie lactée après sa floraison. » Bien observé, puisqu'on passe du jaune à l'argent, si on peut dire.
Merci beaucoup.
Dernier petit truc, en anglais, ça s'appelle dent de lion, dandelion, dent de lion. Et ce terme de dent de lion est un vieux terme qui date du Moyen-Âge, du vieux français, parce que ça décrit un peu les feuilles qui sont assez dentelées. Donc, il y a eu cette image de dents de lion. Et il semble que ce sont les Normands, lors de la conquête normande du XIe siècle, qui aient apporté ce nom en Angleterre. Et c'est toujours l'appellation anglaise actuelle du pissenlit.
Merci beaucoup.
Merci à tous.